Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. Comédienne révélée par la Nouvelle Vague, Macha Merrill est aussi écrivaine. Après avoir signé de nombreux livres de cuisine, de chroniques, autobiographiques ou de fiction, elle revient aujourd'hui en librairie avec un nouveau roman enflammé intitulé « Vania, Vassia et la fille de Vassia » aux éditions Liana Levy. Là, Macha Merrill puise dans sa mémoire russe, elle qui est née princesse Gagarine, de parents exilés en France, pour nous raconter l'ascension d'une enfant, fille de Cosaque, immigrée avant la Seconde Guerre mondiale et qui gravira tous les échelons de la société française. C'est le portrait d'une battante, à l'image de son auteur au tempérament irrésistible et une femme de caractère qui ne se laisse pas arrêter par la crise sanitaire puisqu'elle nous a reçus chez elle à Paris pour un entretien en tête-à-tête dans un salon illuminé par la présence invisible et les photos de son mari Michel Legrand, le génialissime musicien et compositeur disparu l'an passé et qui a accompagné l'écriture de ce livre dont Macha Merrill nous lit un extrait tout de suite.
Sonia, juin 1940. Mademoiselle Baraduc tend une paire de petits ciseaux à Sonia. Il faut vous couper les ongles, mon petit. Vous ne pouvez pas jouer du piano avec des doigts pareils. Sonichka n'ose pas dire qu'ils n'ont pas de petits ciseaux à la ferme et que son père lui interdit tout accessoire de coquetterie. Elle n'a qu'un minuscule miroir ébréché au-dessus de la cuvette où elle se lave le matin, toujours à l'eau froide. La revêche professeur de piano ne la croirait pas. Les femmes très pieuses de la petite communauté cosaque ne se regardent jamais dans la glace. C'est un péché. Sonia se souvient de sa mère qui mettait son chapeau sans s'inquiéter qu'il soit de travers, qui ignorait le rouge à lèvres et la poudre. La seule parure des femmes, ce sont les cheveux qu'elles peignent en longues tresses, quelquefois enduites d'huile de lin pour qu'elles tiennent plusieurs semaines enroulées autour de la tête.
Merci, Macha Merrill, d'avoir accepté de nous lire cet extrait de votre nouveau roman avec le talent de comédienne qui est le vôtre. Une scène où l'on fait connaissance de votre héroïne, Sonia, la fille de Vassia, pour reprendre le titre, que l'on suit de 1939 à nos jours, de son enfance, puisqu'ici elle a une dizaine d'années, jusqu'à son élection à l'Académie française en 2019. Un parcours exceptionnel d'une petite fille née dans une famille d'exilés russes, venue se réfugier dans le sud de la France, juste avant la Seconde Guerre mondiale. Alors une fois que j'ai dit cela, les auditeurs pensent peut-être, connaissant vos origines russes, qu'il s'agit d'un roman autobiographique. Donc tout de suite, Macha Merrill, je vous propose de dire que c'est bien une fiction et que Sonia n'est pas Macha, même si peut-être il y a des petites passerelles entre elle et vous. Mais ça, on en parlera plus tard.
Vous savez, un écrivain pioche toujours dans sa mémoire. Alors évidemment, cette Sonia, je tenais absolument à ce qu'elle soit d'un milieu très particulier, qui est le milieu des Cosaques. Les Cosaques, dans l'émigration russe en France, étaient un peu à part. Ils vivaient entre eux, c'était des communautés, ils n'apprenaient pas le français, ils étaient assis sur leurs valises en espérant retourner en Russie. Tandis que nous, moi, ma famille, je suis une descendante d'aristocrates russes, nous étions cosmopolites, on parlait déjà plusieurs langues à la maison, le français était presque leur langue naturelle, donc j'ai pas du tout vécu ça. Cela dit, quand j'ai entrepris ce livre, au fond, je pense que c'était une façon de rendre tout ce que j'ai reçu en tant que jeune fille russe, tous les souvenirs que j'ai entendus de mes parents, de mes voisins, tous les gens que nous fréquentions. On n'était pas très collés à la colonie russe, hein, mais mes parents, ils fréquentaient pas tellement les Russes. Ils disaient, oh, il faut se débrouiller chacun dans son coin, ils avaient déjà tellement de mal qu'il n'y avait pas une véritable alliance entre les Russes. Mais à partir des années 50, évidemment, tout ce que je raconte qui arrive à cette jeune femme je les ai vécues. C'est-à-dire, ce sont des choses que j'ai vues, que j'ai, des personnages que j'ai rencontrés. J'ai rencontré Mendes France, j'ai rencontré Yeltsin, j'ai rencontré Godard, j'ai vu la Nouvelle Vague, j'ai vu 68. Donc, évidemment, à partir d'une certaine date, ça devient très proche de ce que j'ai vécu moi-même. Mais mon héroïne, c'est vraiment pas moi, hein. C'est vraiment pas moi. Je voulais qu'elle parte très très loin dans un milieu vraiment comme ça, un peu coupé du monde, comme sont les Cosaques. Et c'est ça qui était très particulier et que personne ne sait en France.
Oui. C'est vrai que c'est un milieu qui a été très peu décrit, très peu raconté. Et en effet, Macha Merrill, d'abord, vous êtes beaucoup plus jeune que Sonia. Il faut dire les choses comme elles sont.
Pas tellement. Vous savez, je vais avoir 80 ans cette année.
Eh ben, ça ne se voit pas. Mais cela dit, Sonia est en grande forme jusqu'à la fin de sa vie. Vous devez partager avec elle cet appétit de vivre,
ça,
cette pétulance.
Russes. C'est les constitutions russes. Il y a quelque chose qui fait qu'on est plus, on est plus durable, on dure plus longtemps. Les Méditerranéennes, elles se fanent quelque part très vite, tandis que les Russes tiennent le coup. Alors, il y a aussi autre chose, il faut que je vous précise que les Cosaques, ce n'est pas une ethnie, ce n'est pas géographique, c'est un régiment, c'est un ordre militaire. Et donc, ils avaient en commun cette philosophie très, très, très sévère, très stricte. Alors, orthodoxe, tsariste. Donc, à la Révolution, ils avaient tout faux. Ils ont été les premiers éjectés, massacrés, et même beaucoup ont été détruits. Hein. Ils ont été envoyés au goulag. Donc, quand ils se sont réfugiés en France, c'était en attente que tout ça finisse, n'est-ce pas ? Ils espéraient retourner combattre le communisme, les bolcheviks. Donc, quand ils sont venus en France, ils ont tout fait pour ne pas faire de vagues, ne pas être répréhensibles de faire de la politique ou de prendre position. Ils vivaient entre eux.
Alors, on va s'arrêter un peu avec vous, Macha Merrill, peut-être sur deux personnages pour commencer, à savoir Vania et Vassia, qui sont les deux hommes. Et on reviendra à la fille de Vassia, Sonia, dans un instant. Donc voilà, nous sommes à l'aube de cette Seconde Guerre mondiale, dans cette communauté, avec ces hommes très attachés donc à la Russie, convaincus d'y retourner un jour, quand les communistes ne seront plus là. Quitte parfois d'ailleurs à faire des mauvais choix. Ainsi, pendant cette terrible guerre, le père de Sonia, Vassia, ce cosaque de cœur, a fait un mauvais choix.
Oui.
Il a rallié la cause nazie pour aller combattre au front les communistes. C'est un épisode dont on parle assez peu. Est-ce que vous avez eu l'impression, Macha Merrill, que c'était presque un sujet tabou ?
Eh bien justement, c'était le moment d'en parler. Parce qu'il y a eu beaucoup de cas, vous savez, surtout parmi les Cosaques. Il y a une armée qui s'est constituée, qui était l'armée Vlassov, là ils étaient moins nombreux. Et puis il y a eu des régiments de Cosaques qui ont cru que Hitler allait les débarrasser du communisme. C'était ni Churchill, ni De Gaulle, ni Roosevelt qui allaient se confronter à ce terrible drame qu'a été la position de Staline. Staline quand même, 27 millions de morts. Entre le goulag, entre les déportations, entre les guerres, et surtout, un autre chapitre de la Deuxième Guerre mondiale que on raconte peu, c'est la place des Russes. C'est-à-dire que Stalingrad, c'est eux les premiers qui ont confié l'armée allemande. Et puis après, il y a eu tout le front de l'Est. Alors j'ai un ami qui historien qui m'a un petit peu aidé pour que je dise tout, que tout soit exact. Vous avez vu, j'ai travaillé. Hein, pour
vous
que,
avez très bien
sur
travaillé.
Sur le plan historique, c'est absolument impeccable.
Irréprochable.
Il s'appelle Christian Ingrau. C'est le plus grand spécialiste du nazisme. Il est vraiment le spécialiste au monde. Et il m'a dit, je suis content qu'enfin on parle de cette partie-là de la Deuxième Guerre mondiale, qui est le front de l'Est. Alors tous ces Cosaques, ils ont un peu fait l'impasse, ils détestaient Hitler, mais ils ont fait l'impasse sur cette lutte judéo-bolchévique. Ils n'ont vu que le deuxième volet. Et finalement, ça a été un cheveu quand même que Hitler arrive à vaincre. Alors, ils n'avaient pas de doute sur Hitler, ils savaient que c'était une crapule, mais ils pensaient que l'armée allemande était suffisamment forte pour gagner. Voilà. Mais Effectivement, il y a quelques années, on n'aurait pas pu en parler. Je pense qu'on est à un moment de l'histoire assez formidable où on peut lever le voile sur un certain nombre de choses. Et je vois bien d'ailleurs les réactions qu'ont eues tous mes lecteurs jusqu'à présent. Personne ne m'est tombé dessus, personne ne s'est offusqué. C'est historique, ça a existé. Et d'ailleurs, ils ont mal fini, tout cela, tous ceux qui ont choisi de combattre avec les SS ou avec la Wehrmacht. Et en général, ils ont soit été massacrés, soit ils ont été eux-mêmes de nouveau déportés en Russie. Donc, ils se sont trompés de toutes les manières. Ce sont des vies perdues. Alors, mes deux héros, Vania et Vasya, pour moi, c'est les deux faces de l'homme russe.
Exactement. Cela dit, Vania, lui, il fait un autre choix. Il préfère rester en France. Alors, il va s'occuper de ses chevaux pendant longtemps. Et puis, finalement, sa femme le quitte, ses enfants grandissent et il va venir à Paris où il va être chauffeur de taxi. Mais jusqu'ici, quand il est en France, on n'est pas tout à fait sûr qu'il soit vraiment heureux. En tout cas, il est réfugié, dans le sens où un de vos personnages dit « Les Français ne nous aiment pas, mais il ne faut pas les fâcher, ni rien leur devoir. » Est-ce que vous avez ressenti ça, vous aussi, Macha Meryl, quand vous êtes arrivée en France? Alors, vous étiez encore petite, et puis, en l'occurrence, vous avez fait un autre voyage, puisque vous êtes née au Maroc, à Rabat, de parents exilés, bien sûr. Mais quand vous êtes arrivée en France, vous l'aviez ressenti, ça, cette espèce d'hospitalité un peu ambiguë?
Alors, ça, vous venez mettre le doigt sur la condition de l'immigré. Quand on est immigré, on doit être supérieur, on doit être meilleur que les autres et on doit ne compter que sur ses propres forces. Parce que moi, j'avais pas d'alliés, de famille, de soutien, de piston, de rien du tout. Et je crois que ça, c'est ce que ressentent tous les émigrés. Et que donc, à la fois, ça peut être un drame, mais c'est aussi une chance. Parce que ça t'oblige à être tout le temps au meilleur de soi-même. Et je pense que ces Cosaques, ils aimaient la France, hein. Ils trouvaient que la France était quand même le pays des droits de l'homme. Ils avaient même une vision un peu mythique de la France. Et certainement, ils n'étaient pas heureux. Et ils n'étaient pas chez eux. Ils continuaient à perpétuer les traditions russes entre eux, les chants russes, la cuisine russe, les traditions et surtout les fêtes religieuses. Tout ça, c'était un ciment très fort entre eux. Donc, vous savez, c'est l'ambiguïté du communautarisme. Bien sûr qu'il y a des défauts terribles au communautarisme, mais quelquefois, c'est aussi une sorte de refuge, une force dont mon héroïne hérite d'ailleurs, parce que elle n'a pas rompu avec ses racines, et je pense que c'est ça la solution. Vous voyez, là on politise un peu le sujet, mais c'est très très d'actualité. C'est-à-dire qu'il faut garder les pieds dans ses origines et en même temps s'en débarrasser d'une certaine manière pour adopter les lois du pays dans lequel on vit et puis essayer de réussir dans le pays dans lequel on vit. Alors la France, franchement. Moi, j'en ai marre qu'on dise que c'est pas une terre d'accueil et que c'est pas l'ascenseur social est bloqué, etc. Je suis moi-même la démonstration du contraire. Il y a tellement, si vous regardez tous les gens qui réussissent en France, 9 fois sur 10, ils ont des origines étrangères. Donc, c'est ça un peu la spécificité de la France. C'est de pouvoir donner une chance à ceux qui le veulent, qui en ont les moyens, qui en ont la santé, ça c'est vrai. Alors, bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais pas regretter d'avoir de bonnes dents et d'être en bonne santé. Ça m'a beaucoup aidé, évidemment, pour cette ascension.
Oui, donc ce que j'entends, Macha Meryl, c'est que vous n'avez pas du tout souffert de ça et que vous en avez fait une force de cette
différence. Alors, quand j'étais petite, vous savez, à l'école, quand je disais je m'appelle Marie-Madeleine Gagarine, alors c'était Saccharine, Margarine, j'avais droit à toutes ces quolibets. J'étais blessée, ça me chagrinait. Quand j'ai fait mon premier film, j'ai changé de nom. Meryl est un nom qu'on a inventé avec le producteur et avec le metteur en scène qui était Gérard Houry, c'était son premier film. Et parce que je savais que ça pouvait pas marcher, que quand même il y avait des barrières. Elles existent encore. Je peux aujourd'hui revendiquer ma différence, mais elle a été un obstacle par moment. Quand je faisais des essais pour les films. Alors les actrices françaises, elles sont toutes petites, menues, elles ont une petite taille. Et moi, je suis costaud, je suis baraquée, je suis charpentée, je suis russe. Alors je rentrais jamais dans les costumes. En général, il n'y en avait qu'un seul pour l'actrice qui devait faire les essais. Et donc, ça m'a pénalisée quand même. Je n'ai pas fait une carrière la même que a fait, je ne sais pas, Marlène Jobert ou même Catherine Deneuve. Parce que je ne suis pas du gabarit français. Et ça me revenait régulièrement. Alors, c'est amusant parce que il faut que ça se retourne. Il faut savoir, c'est Arthur Houy, à un moment donné, Brecht lui fait dire, il faut transformer les événements en décision. Je pense que c'est vraiment d'actualité ça aussi. Il faut transformer cette pandémie en quelque chose qui nous fait progresser, qui nous amène à d'autres réponses. C'est le secret du bonheur, vous savez ça. C'est le secret de la vie. Et donc, quand je voyais qu'il y avait des obstacles, eh ben, j'en faisais autre chose. Par exemple, j'ai écrit des livres de cuisine. C'est-à-dire que je me suis un peu transformée à travers les difficultés.
Vous disiez il y a un instant, Macha Meryl, que c'est bien de garder aussi ses racines en soi et c'est une façon aussi de garder son identité tout en s'adaptant dans un autre pays et d'autres cultures. Alors parfois, il y a des différences. Et par exemple, c'est ce que vous écrivez, les Français ne pourront jamais comprendre ce que signifie être émigré, fille d'émigré, à jamais éloignée de leur terre, de leur langue et de leurs usages. Le niveau de civilisation ne remplacera jamais l'attachement aux racines. Comme disait Vassia, la France est belle et civilisée, mais ses habitants ne chantent pas à la fin des repas, ni ne pleurent en écoutant la lecture de poésie. Est-ce que vous aussi, Macha Meryl, vous chantez à la fin des repas et vous pleurez en écoutant de la poésie?
Absolument. Et ça a été une des raisons de ma fascination pour l'Italie. J'ai retrouvé en Italie quelques-unes de ces richesses humaines qui caractérisent les Russes. Ce qui est très beau chez les Russes, c'est qu'ils chantent des chansons traditionnelles très anciennes. Ils chantent pas du Aznavour ou du Mireille Mathieu, vous comprenez? C'est-à-dire que c'est comme s'ils se replongeaient dans leur passé. Écoutez, cette équation-là, elle est sacrée, en quelque sorte. Il ne faut pas renier son passé. Il faut surtout mériter ses ancêtres. Il faut mériter l'estime des contemporains, mais il faut aussi mériter ses ancêtres. Moi, je ne parle pas très bien le russe, vous voyez, par exemple.
Oui, j'allais vous poser la question.
Oui, parce que mes parents voulaient qu'on soit des petites françaises, qu'on n'ait pas trop de difficultés. Alors, je le parle quand même. Comme j'ai pas d'accent du tout, on est persuadé que je parle très bien, mais je fais beaucoup de fautes. C'est une langue terrible, vous savez. Oh, voilà, tout se décline, l'adjectif, l'article, le verbe. Oh, c'est une langue infernale. Même les Russes eux-mêmes font beaucoup de fautes. Mais je dois à mes parents cette intégration total.
J'ai l'impression, Macha Meryl, j'ai cru comprendre ou entendre le mot réconciliation ou rendre hommage à ses ancêtres. Il a fallu attendre presque ce 25e livre pour que vous fassiez cette déclaration d'amour à vos origines russes. Alors qu'au cinéma, vous aviez déjà interprété des rôles de Russes de mémoire dans Les uns et les autres de Claude Lelouch.
Oui, absolument.
Vous aviez ce rôle d'une jeune femme russe. Donc
je
le cinéma, oui,
russe ou allemande,
mais la littérature,
quoi,
non. Oui. Pas
alors,
encore.
Il faut que je vous dise que depuis que j'ai écrit, ça fait quand même une paye maintenant, hein, j'en suis à je sais pas combien, hein, tous les éditeurs m'ont demandé d'écrire sur mes origines. Ah, les princes russes, vous comprenez, parce qu'ils imaginent qu'on vit dans la zibline avec une cuillère en vermeil dans la bouche, avec du caviar qui me pend. Donc, et moi, c'était toujours non, parce que ce n'est pas mon destin. Moi, j'ai pas connu ça. J'ai connu que la tragédie de l'émigration et aussi, comme ça, dans mon imaginaire, des choses perdues, une vie perdue. Alors, oui, bien sûr qu'un jour ou l'autre, il fallait que j'écrive quelque chose autour de ça, mais je tenais à cette forme romanesque parce que, avant tout, moi, ce qui m'intéresse, c'est que le livre soit réussi, c'est que le livre soit bon et qu'on ait envie de le lire. Genre, ils s'en fichent pas mal, finalement, de savoir que je suis russe ou pas russe, hein, ce qu'ils veulent savoir, s'ils ont envie de me lire. Et bon, je crois que j'ai été bien accueillie.
Je vous propose de faire une petite pause musicale et d'écouter précisément un titre de la bande originale du film « Les uns et les autres » de Claude Lelouch, « Boris et Tatiana ». Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI en compagnie de Macha Meryl qui nous accueille à son domicile à Paris et on vous remercie. Célèbre comédienne mais également autrice depuis longtemps d'une œuvre très variée dont ce nouveau roman qui nous emporte littéralement. Il s'intitule, je le rappelle, Vania, Vassia et la fille de Vassia aux éditions Liana Levy, la traversée du XXe siècle de Sonia, la fille de Vassia qui connaît un parcours exceptionnelle grâce à ses talents de pianiste, mais aussi son intelligence qui lui permettent d'être remarquée et de devenir une femme de caractère, participant à la résistance par exemple pendant la Seconde Guerre mondiale, l'une des premières à être acceptée à l'ENA, qui se destine à une carrière politique, qui vit en toute liberté et qui croise les plus grands de ce monde, de Solzhenitsyn à Boris Yeltsin, en passant par Joseph Kessel, Pierre Mendès France, Mitterrand. Bref, c'est un peu une vie idéale que vous inventez ici, Macha Meryl.
Ah, bah, c'est-à-dire que c'est une femme de notre époque. C'est-à-dire, ce que j'ai voulu raconter surtout, c'est que l'événement du XXe siècle, c'est l'émancipation des femmes. Pour moi, 68 est un mouvement féminin, avant tout. Ce qui a été gagné, c'est surtout les femmes. Parce que la pilule, qui a commencé, qui était avant, hein, 66. Mmh. Donc en fait, la vraie date, c'est 66. Mais 68 a été l'éclosion de ça. Tout le reste a plus ou moins loupé, a plus ou moins raté. Hein. La CGT nous a rejoints dans nos manifs, et puis finalement, c'était pour soutenir les ouvriers et pas tellement pour soutenir les étudiants. Donc on a un peu raté. Par contre, il y a eu cet événement extraordinaire. Tout d'un coup, les femmes ont pris une place dans la société. Moi, je voulais que cette jeune femme, elle incarne le siècle de cette manière-là. C'est, je crois, no return. Regardez ce qui se passe maintenant. On s'aperçoit que les femmes sont faites pour gouverner. Elles sont faites pour des postes qui étaient soi-disant consacrés par les hommes. Et ben non, on est meilleur. On est faite pour ça. Donc, forcément, c'est une vie idéale. C'est une vie qui est conforme à toutes les possibilités qui se sont ouvertes aux femmes pendant ces 70 ans, ces 80 ans, parce qu'elle vit jusqu'à 90 ans, et bon pied, bon œil jusqu'au bout.
Alors justement, Sonia est aussi écrivain et son premier livre est un pamphlet contre le sexisme à l'Assemblée nationale. Je me demandais si vous aussi, Macha Meryl, vous pourriez écrire un pamphlet contre le sexisme en général, voire dans la culture en particulier, que ce soit les milieux de la photo que vous connaissez, les milieux du cinéma ou les milieux littéraires.
Oh ben, il faut mettre ça partout. C'est-à-dire que il faut insuffler du féminisme dans tout ce qu'on fait. Et moi, je le fais naturellement dans tous les rôles que j'ai interprétés, dans tout ce que j'ai écrit. Mes autres romans, c'est toujours aussi des histoires de femmes qui se confrontent à une sorte d'autoritarisme qu'elles peuvent vaincre ou pas. Mais comme je crois au succès, moi. Moi, je crois au bien. Vous savez, je crois que le bien gagne. Je crois que c'est pas vrai que on progresse pas. Je crois au sens de l'histoire et je pense que nous vivons mieux que nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Et je pense que le monde est meilleur. Alors évidemment, il y a des poussées comme ça, des choses qui restent comme ça, des résidus de racisme, de je sais pas quoi, qui sont des choses qui vont prendre beaucoup de temps à se transformer. Mais quand même, quel progrès. On vit plus longtemps. Alors, dans certains pays, hein, je suis bien d'accord qu'il y a des pays aussi où c'est pas comme ça. Mais quand même, dans l'ensemble, la condition humaine s'est beaucoup améliorée.
Et la condition féminine aussi.
Oh ben, surtout la condition féminine. Mmh. Alors, ce qui fait qu'il y a quand même des inconvénients, c'est que maintenant les femmes meurent de crises cardiaques parce qu'elles ont autant de stress que les hommes. Et puis, le poids de la société, elles le sentent davantage. Elles sont plus occupées par la vie du monde que par la vie de leur famille. Donc ça pose une petite question. Hein. Comment est-ce qu'on élève des enfants tout en étant une femme active? Mais ça va se résoudre tout ça. On va trouver des solutions pour tout.
Précisément, Sonia, elle n'a pas d'enfants parce que peut-être elle n'a pas trouvé encore le père des enfants qu'elle souhaiterait, ou alors elle l'a perdu, n'en disons pas plus. Donc c'est une femme d'action. Et d'ailleurs,
c'est mon cas. Moi, j'ai pas eu d'enfants non plus. Et maintenant, quand j'y repense, voyez, avec tout le temps qui est passé, la distance, j'attendais Michel. Et comme c'était trop tard pour avoir des enfants avec lui, on s'est mariés, j'avais 74 et lui 80. Et au fond, toutes les histoires que j'ai eues précédentes n'ont pas abouti à la maternité. Probablement parce que c'était lui, l'homme que j'attendais. Moi, je crois à l'amour. Je crois que l'amour, il n'y en a qu'un. Et que celui-là, d'ailleurs, dans mon roman aussi, elle est en fait la femme d'un seul homme.
Mais oui, c'est un formidable roman sur l'amour et sur la deuxième chance en amour. C'est ça qui est très beau. Ça
Exactement.
Veut dire que rien n'est jamais fini, puisque Sonia a la chance de retrouver 50 ans après le garçon, le premier garçon qui lui a fait battre le cœur à la chamade. Donc un sujet que vous connaissez bien, Macha Meryl, puisque vous venez de nous rappeler qu'en effet, vous avez retrouvé votre époux, Michel Legrand.
Au bout de 50 ans.
Au bout de 50 ans, alors que vous étiez croisés à une époque où...
Mais quand on s'est rencontrés en 64, nous savions que nous étions faits l'un pour l'autre. Sauf qu'il était marié, il avait deux enfants, et moi, je suis pas une voleuse de mari. Et puis, en plus de ça, c'était pas le moment. Vous savez, c'est ça aussi, la vie. C'est ça qui est mystérieux. Il y a un moment pour les choses. Comme c'était un moment pour moi d'écrire ce livre, c'était aussi un moment pour moi de retrouver Michel, in extremis. On a quand même réussi à vivre ensemble 6 ans. C'est pas beaucoup, j'aurais voulu vivre plus longtemps avec lui, mais je les ai quand même eus.
On vous comprend. Et donc encore un mot pour dire que à deux reprises, puisque Sonia fréquente tous les milieux du cinéma et de la diplomatie, on croise une certaine Macha Meryl. Petit clin d'œil malicieux qui nous dit que Sonia a bien croisé Macha, mais est-ce que Macha a croisé Sonia dans la vraie vie?
Ah, j'en connais des Sonia. Écoutez, elle a une carrière dans Kos. Je connais beaucoup de Russes émigrés qui ont très bien réussi. Quelquefois plus en Amérique qu'en France d'ailleurs, hein. Mais bien sûr que j'en connais.
Est-ce que Vania Vassia et la fille de Vassia serait pas un formidable film?
Mais bien sûr. Vous savez, j'ai quand même ça dans mes gènes. Hein.
Oui.
Et donc, je pense non seulement que ce sera un film, mais probablement une série, parce qu'il y a tellement à raconter, hein, n'est-ce pas? 3 grandes parties, on traverse toutes sortes d'époques, la guerre, le 68, et on arrive jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est temps pour parler. Et c'est très excitant pour moi, parce que je pense qu'effectivement que c'est un film comme ceux que j'aime, c'est-à-dire une grande épopée, un grand film qui nécessite un metteur en scène solide, hein, ça je peux vous dire. Et d'ailleurs, le problème qui se pose pour moi, c'est est-ce qu'il faut un Russe qui va comprendre des personnages russes, ou est-ce qu'il faut un Français qui va comprendre la vie française, parce que ça se passe en France quand même, beaucoup. Et ben, faudrait un franco-russe, comme moi, par exemple. Et je cherche ça avec mes producteurs, on cherche ça hardiment.
Et qui va interpréter Macha Meryl?
Ah, voilà, il va falloir une très jolie petite Russe. Et puis, évidemment, j'adorerais qu'elle me ressemble et que je puisse interpréter la troisième partie, c'est-à-dire la vieillesse de Sonia. Ça, ce serait génial. Ça, ce serait pour moi, alors, un cadeau formidable.
Oui, parce que moi, la question que je vous posais, c'est qui va interpréter Macha Meryl dans ses apparitions, mais vous pensiez à Sonia, donc.
Ah ben, bien sûr. Ah ben, pour interpréter Macha Meryl, elle existe, on prend des extraits des films. Mais dans le film, le personnage de Sonia, évidemment, j'aimerais jouer la troisième partie où elle a plus de 80 ans.
Alors, puisque vous nous parliez de Michel Legrand, qui traverse d'ailleurs ce livre un peu comme un ange au-dessus de votre épaule, avec des allusions et son nom clairement cité. Est-ce que vous aimeriez que l'on se quitte, Macha Meryl, avec l'une de ses chansons, l'une de ses compositions? Et Dieu sait que son œuvre est vaste et merveilleuse. Mais un titre qui se marierait particulièrement avec votre roman.
Il y a cette merveilleuse chanson qui est aussi dans le film de Lelouch, qui dit «
Dis, on veut surtout pas,
na, 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 na,
m'en veut surtout da, da, pas,
si, da, 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 da. Je veux bien que vous me fassiez entendre celle-là.
Alors avec plaisir. Merci beaucoup, Macha Meryl.
Merci.
De nous avoir accueillis pour parler de ce très très beau roman, Vania Vassia et la fille de Vassia, publié aux éditions Liana Levy.
On se reverra, un café désert, sans les cafés, les gares.
Débat africain.